Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un sommet annoncé comme décisif pour l'Union européenne après le Brexit. Les 27 se réunissent aujourd'hui à Bratislava pour tenter de relancer l'Europe qui s'enfonce dans l'abîme.
Le procès de la RICS de Cisco en Corse et les peines prononcées cette nuit, elles vont de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme pour les 5 prévenus, des villageois et d'autres Corses d'origine marocaine.
Emmanuel Macron et Manuel Valls se sont disputés. Hier, l'héritage de Michel Rocard passe d'armes entre les deux héritiers potentiels du théoricien de la deuxième gauche, c'était lors d'un colloque à Paris. À 7h13, le billet économique, Guillaume.
Marie Viennot reviendra sur le feu vert britannique au projet EDF d'Hinkley Point. Le sujet du jour, que sont les intellectuels devenus, et la question du jour au Brésil, qui faut-il croire, Lula ou ses adversaires?
Comment donc relancer la construction européenne après le Brexit? Cette question est au cœur d'un sommet des 27 dirigeants européens aujourd'hui à Bratislava, en Slovaquie. Sommet informel, mais décisif, sans le Royaume-Uni donc. L'Union européenne n'a qu'un impératif, trouver un nouvel élan face à la montée des populismes, face aux crises économiques et migratoires. Le tout dans un calendrier électoral chargé dans plusieurs pays, comme en France ou en Allemagne l'an prochain. Pour Martin Schulz, le président du Parlement européen, l'UE doit passer à la vitesse supérieure, il y a urgence.
L'Union européenne est même menacée de dissolution. Les forces centrifuges sont là, existent, menacent l'Union. La perte de confiance des citoyens, le sentiment, les gens qui travaillent dur, respectent les règles, eux-mêmes ne sont pas respectés. Ça, c'est un sentiment qui est partout, qui est omniprésent. Et malheureusement, l'Union européenne joue pour beaucoup le rôle de bouc émissaire. Ça mène à une sorte de méfiance profonde. Et si nous ne regagnons pas de la confiance des citoyens, l'Union européenne sera affaiblie encore plus que c'est déjà le cas aujourd'hui. La crise est grave.
Martin Schulz, le président du Parlement européen, répondait à Quentin Dickinson. 4 priorités donc à ce sommet des 27 à Bratislava aujourd'hui. Sécurité, défense, croissance et jeunesse, des thèmes pas vraiment nouveaux, mais préparés déjà hier par le couple franco-allemand. Angela Merkel était à l'Elysée. Il sera également question du drame humanitaire des migrants dans une Europe qui n'arrive toujours pas à faire un front commun dans cette crise. Ligne dure, par exemple, adoptée par certains pays de l'Est, comme les 4 de Visegrad, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. Mais il est un pays qui est prêt à jouer la solidarité sur les migrants, l'Estonie, pays fondamentalement pro-européen, qui prendra la présidence tournante de l'Union le 1er juillet prochain à la place du Royaume-Uni. Le reportage de Bruno Caden à Tallinn, la capitale estonienne.
L'Estonie s'inquiète de l'euroscepticisme qui se développe en Europe occidentale. Avec la menace russe à ses frontières, et après avoir si difficilement retrouvé son indépendance il y a seulement 25 ans, l'Estonie reste un excellent élève de l'UE et de la zone euro. Le président de la commission défense au Parlement estonien, Marko Mikkelson.
Pour l'Estonie, c'est une question essentielle. Nous serions de plus grands perdants que n'importe qui d'autre si quelque chose de terrible arrivait à l'Union européenne. Nous avons besoin d'une Europe forte et unie, et c'est une priorité capitale pour notre gouvernement.
À Bratislava, les migrants seront au cœur des discussions, et tous les pays de l'Est ne sont pas sur la même ligne que la Hongrie sur le sujet. L'Estonie, elle, est solidaire sur les quotas et les gardes-frontières européens. Marko Mikkelson.
This is not the problem for one country. We very much agree that
cela ne peut pas être le problème d'un seul pays. C'est donc pour cela que nous sommes parfaitement d'accord pour faire attention ensemble à ces dossiers, y compris sur les quotas de migrants, mais il ne faut pas oublier de se pencher sur les racines, pas uniquement la Syrie et les guerres, mais également les réfugiés climatiques ou la mauvaise gouvernance en Afrique ou au Proche-Orient. Nous devons aussi mieux protéger nos frontières extérieures.
We have to better protect our external borders.
L'Estonie a également une frontière extérieure de l'UE avec la Russie. Et elle partage déjà son expérience avec des pays des Balkans.
Bruno Caden, envoyé spécial de France Culture à Tallinn. L'Union européenne sans le Royaume-Uni, c'était le combat de toute sa carrière politique. Nigel Farage, il a quitté la direction du parti anti-immigration UKIP juste après le Brexit. Et l'on connaîtra aujourd'hui le nom de son successeur. 6 candidats en lice dans cette succession très disputée. Diane James, députée européenne et porte-parole du parti pour les questions de politique intérieure, serait la mieux placée passer. Une amende record de 14 milliards de dollars, c'est ce que les États-Unis demandent à la Deutsche Bank de payer pour solder un litige immobilier remontant à la crise des subprimes en 2008. La première banque allemande écoperait de l'amende la plus importante jamais infligée à une banque étrangère aux États-Unis, mais elle fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de solder ses potentielles requêtes civiles au montant proche du chiffre cité par les autorités américaines. Elle est de retour dans la course pour la Maison Blanche, au moins physiquement. Hillary Clinton a tenté hier, lors de ses premiers déplacements depuis sa pneumonie, de donner une raison aux électeurs de voter pour elle. Pendant ce temps, Donald Trump, son adversaire républicain, est en pleine ascension dans les sondages.
7h05 sur France Culture, la suite du journal. Catherine Dutu, retour en France avec le procès de la rixe de Cisco et les peines prononcées cette nuit. Elles vont de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme.
C'est ce que le tribunal correctionnel de Bastia a décidé à l'encontre des 5 hommes prévenus dans cette affaire. 12 heures d'audience environ pour juger de cette bagarre générale qui avait presque dégénéré en lynchage le mois dernier dans le village de Cisco, au nord de Bastia. D'un côté, au tribunal, 2 habitants du village côtier du Cap Corse, de l'autre, 3 frères corses d'origine marocaine. L'un de ses frères, principal prévenu, a été condamné à 2 ans de prison ferme avec maintien en détention pour violence en réunion avec armes. Les 2 autres frères, absents à l'audience, ont écopé chacun de 6 mois de prison avec sursis. Les 2 villageois de Cisco, le boulanger et un employé municipal, ont eux été condamnés respectivement à 1 an et à 8 mois avec sursis. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Catherine.
Marie-Pierre, vous êtes à Bastia pour France Culture. Alors au-delà des peines qui ont été prononcées, est-ce que ce procès a permis d'en savoir un peu plus sur le déroulé des faits le 13 août dernier? Cette bagarre, on s'en souvient, avait suscité beaucoup de fantasmes, Marie-Pierre.
Eh bien, malgré plus de 12 heures d'audience, hein, vous l'avez dit, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Témoignages contradictoires, amnésie opportune, dénégation en cascade. Pour Mustapha Benhadou, comme pour Lucien Straboni et Pierre Baldi, les 2 villageois, c'est toujours l'autre qui a commencé. Mustapha Benhadou reconnaît toutefois, et dit le regretter, avoir secoué et donné une gifle au jeune Jerry. C'est l'événement déclencheur, une gifle, parce qu'il prenait une photographie, pense-t-il, des femmes marocaines voilées sur la plage. Il s'est senti stigmatisé, plaide l'un de ses avocats. Il a ressenti ce cliché comme une provocation. Le jeune, de son côté, soutient qu'il photographiait simplement la mère. À partir de là, tout est confus. Les uns entendent des insultes que les autres disent n'avoir pas prononcées. On parle de jets de pierre, de menaces, sans pouvoir vraiment en attribuer la paternité aux uns ou aux autres, tant l'exagération mine chaque propos. Si Mustapha endosse la responsabilité des premiers coups, tout dégénère ensuite à l'arrivée des villageois venus à la rescousse des jeunes. Après la photo, puis la gifle, c'est le troisième acte.
Et justement, ce troisième acte, est-ce qu'il a été violent également ?
Eh bien, c'est là que l'on frôle la catastrophe. Hein. Ce sont les termes du procureur qui parlent de lynchage collectif. Il n'a pas de mots assez durs pour dénoncer le comportement des 2 villageois. Pierre Baldi qui donne un coup de pied dans la tête de Jamal Benhadou, l'un des frères marocains alors qu'il est à terre. Vous lui avez fracturé le nez et il a perdu connaissance sous votre coup de pied. Et quand les pompiers le transportent sur une civière, c'est le boulanger Lucien Straboni qui force le cordon de gendarme pour lui asséner un violent coup de poing. Tous deux écoperont, vous l'avez dit, de prison avec sursis, assorti de mise à l'épreuve. Mustapha Benhadou, décrit comme le caïd qui voulait privatiser la plage, s'en est pris à un jeune 2 fois plus frêle que lui, puis s'est emparé d'un fusil harpon. Eh bien, il écope donc de 2 ans ferme compte tenu de son casier déjà un peu chargé. Un jugement qui se veut d'apaisement après les tensions suscitées par la rixe. La présidente a tenu à ramener les événements à leur juste mesure. Une gifle, puis une bagarre, des blessés légers. Les fractures qui traversent la société française et la société corse ne sont pas la réalité de ce dossier, avait rappelé le procureur. C'est à la fois quelque chose de plus classique et de plus minable.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud, en direct de Bastia pour France Culture, depuis les locaux de nos confrères de France Bleu, Frequenza Mora. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé hier encore pour demander l'abrogation de la loi travail. Était-ce vraiment la dernière manifestation avant de possibles recours juridiques en entreprise? Reportage dans le journal de 7h30. Les protestations ont par ailleurs été émaillées de violence, avec de violentes échauffourées à Paris et 32 gardes à vue au total en France. Alors qu'Emmanuel Macron est en marche, comment se portent les cars qu'il avait avait lancée à l'été 2015. Le ministre se vantait cet été d'avoir créé, grâce à sa loi, 1500 emplois dans le secteur. Le régulateur des activités ferroviaires et routières vient, lui, de publier son bilan pour le deuxième trimestre 2016. Effectivement, le nombre de passagers est en hausse. On compte 193 liaisons et cela a créé des emplois. Mais Marion Lourd, vous avez scruté ce marché et il est bien en train de se structurer, ce qui a des conséquences pour les passagers comme pour les salariés.
Le nombre de liaisons en car augmente. Mais cet été, pour la première fois, certaines ont disparu. Paris 3, par exemple, pour la compagnie Easy Lines, ou Bordeaux-Lyon, via Limoges et Guéret, pour le co-leader du marché, Flixbus. Rien de grave pour Pierre Gourdin, son directeur général.
Malheureusement, la taille de ces villes ne permet pas de maintenir aujourd'hui l'activité. On a décidé de la mettre en sommeil, hibernation, jusqu'à l'été prochain. On a lancé beaucoup plus de villes, beaucoup plus vite que les autres. On a sans doute été un peu trop rapide. On pense que l'année prochaine, ce sera rentable. Mais cette année, malheureusement, c'est trop compliqué de rouler l'hiver pour le partenaire et pour nous.
Certaines lignes deviennent donc moins fréquentes. Au deuxième trimestre, les cars Macron ont parcouru moins de kilomètres. Les compagnies cherchent leur rentabilité par les prix aussi. Toutes promettent qu'ils resteront bas, mais Fabien Tozzolini de la CFDT Transport constate l'inverse.
La tarification appliquée en début d'ouverture de certaines lignes, qui étaient notamment de 9 euros, passe aujourd'hui à 25, voire 30 euros. Lignes comme notamment Nancy-Paris, Lyon-Paris ou Lille-Paris qui ont des bus pleins, sans aucune augmentation salariale du chauffeur.
Les salaires diffèrent aussi, du simple au double parfois, selon le syndicaliste. 1300 emplois ont été créés, encore loin des 10 000 visés. Certains sont même menacés. 170 chez la compagnie Megabus, très proche de la sortie de route.
Marion Lourd qui signait ce bilan pour l'écart d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre qui participait hier à un colloque qui aurait dû se tenir du vivant de Michel Rocard, à l'occasion du lancement du site officiel michelrocard.org. Ses créateurs et la Fondation Jean Jaurès ont organisé un après-midi de réflexion sur son héritage hier, un colloque dans lequel les deux héritiers potentiels du théoricien de la deuxième gauche, Emmanuel Macron donc et Manuel Valls, ont livré sans se croiser leur vision de l'ancien Premier ministre. On y revient dans le journal à 7h30. Le temps de ce vendredi, pluvieux sur tout le pays, les températures maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés en général, jusqu'à 24 degrés en Méditerranée et même 25 degrés en Corse.